dalla ideologia, come una frutta che è la e fa una frutta che la vita. No, se non si la comincia per la vita, si deve terminare la faccia. E per me, quando si tratta di un'idea, la faccia è un po' più a me, si deve terminare. E allora, non è del mondo, non è così. E se ti la faccia la famiglia, eccetera, la famiglia è la faccia. Perché quelqu'un doit rencontrer la part de nous, c'est bien lui. Dites à nous la part de ça. Si on prend le temps de Dieu. Bon, le problème. La sociologie, le troisième point, eh bien, je vais vous dire, je m'arrête, que nous avons tout à étudier. Et à propos d'un passage de la Bible, c'est ça, nous sommes écrites pour l'amour que nous vivons. J'avais annoncé, la démarche de France, j'avais annoncé que, effectivement, cette année que nous vivons, Shnat Tashan, c'est une année très importante. Et d'ailleurs, Khaledim aussi le dit, mais à la fin de l'année. Et je suis parti avec eux, ils sont persuadés, eux, que cette année est pour eux, puisque, chose inouïe, c'est eux qui décident qui feront à eux la même. D'accord? Oui, c'est l'année. Du triomphe de Dieu-là. Donc, vous voyez où on se trouve. Voilà ce que je connaissais. Il y a une discussion dans la Mishnah qui est reprise par. Je vais donner juste une phrase en parenthèse. Je crois que le Nassi, le président Herzog, finalement, personne n'a le droit de décider de. Chikula, comme on dit en français, des combien Chikula? J'avais dit le vol, hein? Oui, des raisons pour lesquelles le Massi a décidé de proposer à Shimon Peres de former le gouvernement. Bon, le Massi c'est le Massi, on prend acte. Mais en fin de compte, les Khaledim se sont chargés, finalement, de faire que ça ne soit pas chez Montpellier, ok? Et c'est idolâtrie. Et alors, mais entre-temps, il y a eu cela, le pays a pris conscience qu'il est entre les mains d'une minorité qui est anti-sioniste, ça veut dire, qui est subversive par rapport à l'État. Alors, c'est les Juifs qu'on peut se permettre d'avoir en son sein une minorité anti-nationale et de lui donner des budgets qu'on lui donne. Mais, ça ne peut pas durer longtemps, c'est évident. C'est-à-dire, ça finira par arriver. Est-ce que c'est clair? Je le dis très profondément. Les kibbutzim, prilonim, ont été, je dirais pas insultés, mais remis à leur place par le rachat. Mais quand même, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. Ça veut dire des gens de kibbutzim qui ont fait le pays, ils n'étaient pas seuls, mais sans eux. Qui ont fait ça, ils n'étaient pas seuls, mais sans eux, est-ce qu'il y aurait, ok, que c'est pas des Juifs. C'est énorme. Ça veut dire, c'est les excommuniés de la nation juive, alors qu'ils ont fait l'État. Et ça veut dire que ceux qui les excommunient, s'excommunient eux-mêmes. Est-ce que c'est clair? Je voudrais comment j'ai ressenti ça. Eh bien, ces gens de Kibbutzim, Chilonim, eh bien, j'ai ressenti ça de cette manière. C'est la chair de notre chair, c'est notre peuple, c'est le sang de notre sang, et c'est eux qu'on dit au nom de la Torah qu'ils sont pas religieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas religieux. Alors c'est déjà une autre religion dont on parle. La religion juive ne parle pas comme ça. Et ils sont dans une situation de Tinoch et Mishva, dans une situation fausse par rapport à la Torah, mais c'est la Torah qui leur donne leur identité juive, bien qu'ils ne sont pas soumis à la Torah. Et leur identité juive donnée par la Torah, dans les événements que nous vivons, okay, ils sont les chrétiens de la Kadosh Baruch Hu pour faire ce pays. Alors c'est comme ça qu'on disait Kadosh Baruch Hu, tu sais pas comment travailler, et c'est pas comme ça qu'on fait, okay. Ils ne croutent pas, c'est énorme. Bon, alors vous voyez, je pourrais donner 1000 exemples de ce genre. Pour rendre compte de ce que je suis en train de dire, c'est que le schisme est déjà consommé. C'est une autre religion, à vrai dire. C'est plus judaïque. C'est fini. Bon, alors je reviens donc à cette discussion. Il y a avec
Ben Zohar
et les Chachamim, au sujet du verset « Les Mantiscope et Tion Tzetra Melech Mitzrayim Kolimerev » afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors, on avait besoin d'établir qu'il fallait mentionner la sortie d'Égypte, pas seulement dans les prières du matin, le jour, mais aussi dans les prières du soir. Dans cette Mishnah, il ne s'agit pas du CDR. Il ne s'agit pas de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Il s'agit de la prière de chaque jour où on a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Et cette mitzvah se fait par la lecture de la troisième paragraphe, du troisième paragraphe du Shachma, alors qui Hachem Lokecha, Hachem Tzitzicha Melech Mitzrayim, et ça suit par la bracha de Gal Israël, qui est le contenu de la prière, et qu'on a dit Gal Israël, on commence la prière du Shema Bé'ezra. Et alors tout le monde est d'accord que cette mitzvah force de loi le matin, le jour, et une discussion concernant la prière du soir. Alors c'est un problème très vaste. Je vais simplement y faire allusion pour pouvoir lire la Gemara qui me concerne. Et c'est un Benazar Benazaria qui enseigne et qui dit, je ne suis pas arrivé, malgré l'autorité qu'il avait, la même chef, l'autorité du chef de Sanhedrin, je ne suis pas arrivé à démontrer cela. Tout le monde est d'accord qu'il faut le faire, mais on n'arrive pas à le baser sur un verset. C'est-à-dire, la Mishnah commence par une phrase capable de la date Pessah. Maskiri, Netiat, Israël, Balayot. On mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Décision d'autorité. Et puis on cherche comment fonder ça. Et Rabbi Azar a dit, jusqu'à ce qu'enfin Ben Zohar nous a mis en évidence une lecture de Le Mahartisko, et Tion, etc. Ben Israël, Kolivechaya. Et Ben Zohar enseigne, afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte les jours de ta vie, ça aurait suffi. Parce que tous les jours de ta vie, c'est les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est tous les jours de ta vie. Donc ce mot de tout est apparemment de trop. C'est pour inclure quoi? C'est pour inclure quelque chose qui n'est pas le jour, mais qui est quand même le jour. C'est la nuit du jour. Est-ce que c'est clair? Alors on dit ça comme ça. Yemechayecha ayamim, si le verset est porté les jours de ta vie, c'est les journées. Kol yemechayecha ayamim. Tous les jours de ta vie, c'est aussi les nuits. Voilà donc une allusion dans le verset. Quelquement qu'on peut fonder cette décision de, alors qu'on est redevenu dans la nuit, de parler comme si c'était le jour. Et comment ça se relie à notre problème? Retourner en exil, on fait une fête de la libération de l'exil. C'est contradictoire. Obligément, la question devait se poser, est-ce que on continue à faire Pessah dans l'exil? Puisque Pessah commémore la fin de l'exil. Alors est-ce que le retour en exil n'aurait pas annulé Pessah? Est-ce que ça a un sens alors qu'on rentre dans la nuit de Dieu? Vous voyez, c'est un problème sérieux pour la liturgie. Et alors, notre question est que cette lecture de Ben Zohar, elle est tellement facile qu'on peut se demander pourquoi les Haramim étaient en une telle perplexité. Et c'est la Mishnah qui nous explique. Les Haramim ont voulu, parce que les Haramim, eux, lisaient autrement ce verset, expliquaient autrement ce que qui apparemment le trouve dans le verset. Les Haramim ont voulu. Si le verset avait porté les jours de ta vie, c'est tout le temps qu'on appelle second-ci, jusqu'au temps messianique. Quand les Merayecha, c'est pour inclure les temps messianiques, ça signifie que même au temps messianique, on parlera de son Dieu. Et donc, étant donné que nous avons une règle dans la qu'on n'utilise pas un même verset pour deux règles différentes, si on avait déjà décidé que ce verset enseignait que même au temps messianique, on parlera de son Dieu, alors on ne pouvait pas l'utiliser pour instituer que les nuits de Olamazé aussi, on parle à ce sujet. Bon, j'ai un peu résumé, c'est suffisamment clair. Donc, alors c'est là qu'enchaîne la Gemara qui nous concerne et qui va nous préoccuper. Quelle était cette notion? C'est que la sortie d'Égypte, eh bien c'est la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'événement de la fin de l'exil en Égypte. Mais lorsqu'on arrivera au temps qu'on appelle les temps du Messie, et c'est pas moi qui dis que les temps de la fin de l'exil, ça s'appelle les temps du Messie, c'est la Gemara. C'est la Chachamim qui dit, il y a Mota Mashiach. D'accord? C'est clair? Donc, eh bien, est-ce que cela a un sens de faire allusion à l'événement antérieur, si j'ose dire, préhistorique entre guillemets, il y a si longtemps nous avons été libérés d'Égypte, est-ce que le temps sera pas venu de parler de la libération du dernier exil? comprend les kibbutzim de la Shomer Hatzayim. Ou dans la règle après ça, depuis qu'il y a des kibbutzim dans le pays, eh bien, il raconte la sortie de la Shoah. Avec une petite préface qui parle de la sortie de Juifs, comme dans notre agenda à nous, eh bien, le gros du récit, c'est la sortie des Juifs, alors qu'il y a une toute petite préface qui parle de la sortie d'Abraham de son récit d'Alif. Alors, vous pouvez après le parallèle. Vitarila, Ordar, Odazara, une fiscale. Et après, tout, c'est sur la sortie. Le gros plan, c'est sur la sortie des Juifs. Eh bien, voilà cette discussion entre Ben Zoma et les Hachamim. Amar Lahem, Ben Zoma, la Hachamim. Voilà ce que Ben Zoma avait objecté aux sages. Vechi, maskile, nieti, ad Mitzrayim, le monde à Mashiach. Et est-ce que vraiment on va faire allusion, mentionner, rappeler l'événement de la sortie d'Égypte au temps du Messie? Ben, le Kolav Nehema, n'est-ce pas qu'il a été déjà dit? Et il cite un verset du prophète Jérémie, écoutez bien ce verset. N'est-ce pas qu'il a été déjà dit, Ine Yamin Bayi, voici des jours bien, Neim Hashem, parole de Dieu, Velo Yomru, oh, Hayashem. On ne dira plus, vivant est Dieu, Asher Elai ben Israël, Meret Israël, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, qui, mais on dira, Hayashem, vivant est Dieu, Asher Elai, qui a fait monter, Asher Elai, qui a fait venir, et Zera, Bet Israël, la postérité de la maison d'Israël, Meret Safona ou Mikol Aratzot, du pays du Nord et de tous les pays. Ce verset est clair, c'est un verset du prophète. Le prophète dit en clair, il arrivera un temps où vous vivrez un événement de libération tel qu'on ne parlera plus pour dire Dieu libérateur de la sortie d'Égypte. On dira Dieu libérateur du pays du Nord et de tous les pays. Et là, il y a une allusion claire, une allusion très directe à la situation que nous vivons. Le retour contemporain, c'est un retour qui a commencé par le pays du Nord et auquel ont participé les Juifs de tous les pays. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est clair, c'est clair. Et c'est bien, le pays du Nord, et bien on sait où il est ce pays du Nord, où est le Nord. Et tous les pays, on sait où c'est, ben c'est tous les pays. Et j'ai passé de remarquer à quel point le pays était fondé par les Juifs russes et tous les autres, et que de nouveau, cette année, c'est les Juifs russes et tous les autres. Et que, enfin, je terminerai là, si vous voulez, cette allusion à tous ces textes considérables, en disant que le Rav Gouven avait raison. Le Rav Gouven avait raison. Jusqu'à cette année, on laissait une place du CDR vide pour les Juifs de Russie. Et bien maintenant, on boira la cinquième coupe avec eux. Bien, vous avez la parole, si vous avez plus. Parce que c'est.
Oui. Vous avez dit, le monde est en train d'accoucher d'Israël.
Oui.
Je vous ai dit, marche, et je voudrais vous demander si vous
voulez. Mais écoutez, nous avons cette image dans le Midrash que Israël est en exil comme un embryon dans le sein de sa mère. Et que la sortie d'Égypte, c'est un accouchement. Hein? Vous connaissez cette expression, Révé Fashia, Révé Leda, les douleurs de l'enfantement. Okay. La fin d'un exil, c'est un accouchement. Nous étions en être embryonnaires en tant que juifs d'exil, et voilà que nous vivons un accouchement où nous naissons comme hébreux en sortant d'exil. C'est plus qu'une image. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce qui se passe, c'est un moment impressionnant qu'on ne voit pas. Subitement, l'Empire soviétique s'effondre. Subitement. Et quelle est la préoccupation des décombres de l'Empire soviétique? Renouer vite, vite les relations avec Israël. Vous avez remarqué ça? Donc. Et le monde entier est en train d'accoucher d'Israël. Et vous voyez cet accent qui met par le verset de Jérémie? Le pays du Nord et les autres pays. C'est énorme. Voilà. Alors, c'est une fois de plus, je continue un peu cette image, si vous voulez. Eh bien, le Midrash dit qu'il y a trois sortes d'accouchements. Il y a un accouchement sans douleur, quand la mère veut accoucher, que l'enfant veut naître. Alors, ça se passe bien. Il y a un accouchement au forceps, okay, parce que la mère ne veut pas accoucher et l'enfant ne veut pas naître. Vous comprenez ce que ça signifie dans nos problèmes, ok? Et puis, un troisième, Dieu préserve. c'est quand un vétérinaire est obligé d'accoucher d'une vache qui n'arrive pas à délivrer le petit, ou à se délivrer du petit. Il doit rentrer la main dedans et triturer là-dedans. Voilà. Et bien, ça dépend de nous. La manière dont l'accouchement se fait, ça dépend de nous. Attendez, il y a des filles, là-bas. Et je crois que certains ont mérité l'accouchement sans douleur. L'autre ont mérité un accouchement au forceps. Et le troisième ont mérité un accouchement à coup de pied au cœur, si j'ose dire. Eh bien, ça dépend de lui. Ah oui, je vous avais promis de citer ce que disait Rav Nachman, et puis j'ai vu sur qui, ça concerne un peu cela. Rav Nachman disait ceci, et ça m'a énormément impressionné à quel point c'est une analyse très directe des problèmes que nous vivons. Il dit qu'il y a trois dimensions dans notre identité, le peuple, la terre et la Torah. Il dit, ben voilà, les deux dates que nous avons déjà vécues, c'est 48 et 68. La guerre des six jours, c'est dans 68. 67. Non. Et bien voilà, en 48, c'est la dimension du peuple qui nous a été imposée. Imposée. Les juifs ne voulaient pas d'un État d'Israël. Ils voulaient être français en France, britanniques en Grande-Bretagne, et tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient de fou. Les sionistes, quand ils ont été 600 000, l'État a été fondé. Comme disent les nègres. Mais c'est malgré nous que nous avons un État. Il faut voir. L'honnêteté de l'avouer, okay. C'est malgré le peuple juif que le peuple juif est redevenu la nation d'Israël. Est-ce que c'est clair? Bon, il y a un problème insoluble qui en est dérivé, les réfugiés arabes. Si les juifs étaient venus, nous n'aurions pas de problème, les réfugiés arabes. Et en 67, c'est la terre qui nous a été imposée. Et on n'en voulait pas. Et le lendemain de la guerre des six jours, mon chef d'ailleurs téléphone un peu partout. On dit, alors qui vient reprendre? La marque, on ne peut pas rendre, même si on voulait. On ne peut pas, à qui? Quoi? Il n'y a pas moyen. Okay? C'est malgré nous. Et alors, résultat, problème résolu, c'est la minorité arabe dans ce qu'ils appellent les territoires. Problème résolu. Alors, il ne peut y avoir que des solutions divines. Hein? À vue humaine, il n'y a pas de solution parce qu'on est des juifs. Tout simplement. Il n'y a pas de solution. Mais l'asymétrie est colossale. Et puis, alors, la troisième dimension, la Torah. Un jour, la Torah nous sera imposée. Et comment? Quand? Personne n'en sait rien, même ceux qui savent. Okay? On ne sait pas. Et bien, comme les autres choses, comment on allait avoir une nation? On ne savait pas, c'est arrivé. Comment on allait avoir le pays? On ne savait pas, c'est arrivé. Je donne un petit exemple que j'aime beaucoup. Et tout le monde sait, tout le monde a conscience que si ce pays ne vit pas d'après la Torah, il éclate. Mais que ça vient après la Torah, pas la Torah de Nevak, pas la Torah de la Galoute, la Torah d'Israël. Et c'est de ça qu'on va commencer à parler dans les temps qui viennent. Et je pensais à Jérusalem. Je raconte souvent cela, j'allais dire à Mayanov, mais aussi à Yahir. Eh bien, avant la guerre des six jours, on montait la veille de Pessah sur la plus haute maison juive du côté juif pour voir à la jumelle. Le côté du côté, parce qu'on a une prière à dire la veille des maisons. Et alors, à la jumelle, on voyait la fin du monde, l'autre bout du monde, la Jordanie, avec au loin des autobus jordaniens et des chameaux, et aussi des Arabes. Et je me souviens très bien, l'année d'avant, à l'Élysée, pour nous, c'était la lune, inaccessible, impensable. Quoi, qui, quand, comment? Alors, c'est arrivé. Le roi Hussein est devenu fou. On avait une heure, mais ça va suffire. Hein. On avait un problème avec les Égyptiens et les Syriens, je ne sais pas si vous l'avez. Et le gouvernement israélien a fait dire au roi Hussein de ne pas bouger à travers le nuque, pas bouger, on n'a rien avec toi. Il a dit bon, il s'est entêté. Il dit je suis un musulman pur, je sais que ça vous appartient, venez le chercher, j'attaque. Et c'est l'Angleterre. Qui avait pensé une histoire pareille? On savait pas. Subitement, ça y est. Et tout le monde a réuni. Quoi? C'est que ça, Jérusalem? On n'est pas compte, dominant Jérusalem. Jusqu'à l'année d'avant, c'était la lune. Et subitement, ça y est. Alors, c'est la même chose. Est-ce que c'est vrai? Mais chaque fois, leur manière pite, c'est malgré nous. Chaque fois, c'est malgré nous. Alors, ça rassure. Parce que ça dépendait de nous, ça dépendait de nous. Heureusement, ça dépend pas de nous. Donc, j'ai pas fini, mais tu vas pas oublier. Et alors, quel est le problème insolite qu'on va avoir quand la Torah deviendra la constitution d'Israël? Eh bien, on va avoir deux problèmes. Qu'est-ce qu'on fera des Juifs de la Galoute? Parce que si la Torah devient la constitution de l'État d'Israël, si ça prend force de loi, alors prend force de loi la loi selon laquelle un Juif de la Galoute n'est plus membre de la nation d'Israël. Et, encore une fois, quelqu'un qui vit en Galoute parce qu'il ne peut pas faire autrement, quelle que soit la raison, mais qui sait que son pays, son peuple, c'est Israël, et la terre d'Israël, n'est pas dans ce cas. Okay? La Mishnah dit « Kol ha'dar b'chut la'aret keilu poved avodah » Tout celui qui habite en dehors du pays, mais habité dans le sens de « dirat kera » en se croyant chez lui ailleurs, pas en exil, pas en voyage, chez lui, celui-là est considéré comme un idolâtre. Et la Gemara explique ce qu'elle veut dire. Okay? La Mishnah, la Braïta ici n'a pas dit qu'on la gare de celui qui séjourne, non, mais celui qui habite. Celui qui se sent, qui se sait juif d'exil ailleurs, celui-là n'est pas en question. Est-ce que c'est clair ce que vous voulez? Et alors à ce moment-là, on aura un problème avec les rabbins de l'étranger. Bon, moi, on va y aller. Alors, je vous dis, oui, monsieur, une question et après, tu vois.
J'ai deux questions à vous poser.
Oui, par le plus court passage.
Vous avez dit d'abord qu'en 48, les Juifs ne voulaient pas d'Israël. Je conteste cette phrase.
Je n'ai pas le micro.
Et deuxièmement, je vous demande.
Je répéterai.
Votre opinion sur le fait d'Auschwitz. Auschwitz d'une part et la Torah de l'autre.
Bon, c'est un autre sujet, et très vaste, la deuxième question.
Ça va ensemble.
Si vous voulez,
ça va ensemble. Vous avez parlé d'Auschwitz en glissant.
J'ai pas dit le mot.
En disant que le kibboutzim parlait d'Auschwitz. Et
ah,
c'est à la place de Pessah.
De la Shoah.
Parler de la Shoah. Alors moi, je vous demande quelle est votre opinion sur Auschwitz en tant que rab.
Bon. Je ne réponds pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois, la question peut être posée en une phrase, mais la réponse ne peut pas être en une phrase. Alors, on a un petit moment, mais d'abord, la première question. J'ai dit tout à l'heure qu'en 48, l'État d'Israël nous a été imposé. Les Juifs n'en voulaient pas. Laissez-moi parler. Et je vais dire quelle est votre question, vous contestez cela, alors je m'explique. Lorsque l'État d'Israël a existé, les Juifs ont fait la fête, mais ils n'en voulaient pas, ils voulaient rester chez eux. Il faut être sérieux, il n'y a que les sionistes qui voulaient l'État d'Israël. Il n'y a que les sionistes qui voulaient être citoyens juifs dans un État juif. Les autres, eh bien, voulaient être citoyens d'autres peuples, d'autres États. Alors quand le bon Dieu nous a donné cet État, eh bien, tous les Juifs ont chanté la Tilma, ils ont fait la fête. Mais c'est malgré eux qu'ils l'ont eu. Parce que si c'était des bons Dieu, ils seraient partis. Je me rappelle très bien l'ascenseur en France.
Nous étions à Paris, vous et moi.
Marron, c'est pour ça que je parle.
Et nous étions à Paris le soir de la déclaration de l'État d'Israël.
Oui.
Et mais... vous étiez dans la salle.
Mais oui, mais...
Pourquoi?
Essayez de comprendre ce qui se passe. Et je ne parle pas de moi, ni de vous. Je parle des Juifs de la Galoute en 48.
Oui.
Bon. Eh bien, les Juifs français voulaient être français. Il n'y a que les apatrides qui, on disait, vous l'appelez cette... Pourtant, c'est clair celui-là. Vous rappelez cette blague concernant le sionisme, ça consiste à demander de l'argent à un juif pour envoyer. C'est un juif qui demande de l'argent à un deuxième juif pour envoyer un troisième. Oui. Et on a oublié ça. C'est que, encore une fois, nous tous, nous sommes des repentis du sionisme. Nous sommes venus qu'après, quelles que soient les raisons pour chacun, encore une fois. Mais aujourd'hui, l'atmosphère a changé, et encore, les Juifs de la Galoute ont honte de n'être pas en Israël. Okay. Mais encore, ça change, il y a déjà des signes que, je me rappelle d'un article qui a paru lorsqu'il y a eu cette bagarre entre les nouveaux penseurs philosophes juifs en France sur Torah ou la Torah, ça paru dans l'article, tiens, l'article de Noyer. nous n'avons plus peur du ciel. Enfin, nous n'avons plus peur du ciel. Alors, vous savez, le sionisme en donne un complexe. Alors, il ne faut pas oublier ça. Là, on va poser une grave question. Qu'est-ce que la Torah dit de ce qui s'est passé dans la Shoah? C'est ça votre question. Okay. Alors, je veux dire, j'ai étudié le problème. Et je ne crois pas qu'on puisse, qu'on ait le droit, non pas là, que phrase. Mais puisque vous avez posé la question, je vais essayer de résumer très très rapidement. J'ai étudié 6 explications qui sont données à ce sujet au nom de la Torah, et ce n'est pas la Torah qui dit ça. Et puis il y a une 7e, c'est ce que la Torah dit de ça. Alors je vais vous énumérer ces 6 explications dans les ordres, parce que je ne vais pas préparer à ça. Il y a une première explication qui consiste à dire on a eu jusqu'à la Shoah une illusion de croire que un Dieu un, miséricordieux, tout puissant et bon et juste s'occupait de nous. C'est une illusion. La preuve, la Shoah. Première réaction. Donc. Et alors, on continue à être juif, mais on est juif païen. Plus question de ce monothéisme qui nous a trompés pendant 2000 ans. Donc. Deuxième réaction, c'est que la Shoah, c'est la punition de nos péchés. Et il y a des gens qui s'arrangent avec ça. Voilà, ils font un bon Dieu qui a une conduite de ce type. Il y a des juifs ne pratiquent pas le frein à l'autre, alors ils les envoient au champ Wagatz. Je ne sais pas si vous voyez la disproportion entre les fautes que l'on désigne et l'horreur du châtiment éventuel, si c'était un châtiment. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est blasphème de parler de Dieu comme ça et de voir dans la Shoah un châtiment. Un châtiment de quoi? Et s'il s'agissait du fait qu'on ne pratiquait pas la Torah, il y a une seule mitzvah que tout le monde ne pratiquait pas, c'est d'habiter en Eretz Israël. D'habiter en Eretz Israël, cette mitzvah, personne ne l'a pratiquée, ni la religion, ni les non-religions. Et puis c'est une absurdité, une thèse pareille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des juifs qui pratiquent pas le Shoah, et alors c'est les juifs pieux par la voie brûlée. C'est aberrant. Oui, les gens qui pensent comme ça. Il y a une troisième thèse, et celle-là, elle a cours chez les Haredim, que c'est la punition du péché du sionisme. Qu'on a eu cette prétention de rentrer chez nous avant la fin des temps, de l'exil. Alors Dieu nous a puni en nous envoyant un choix. Donc, bon, j'ai pas besoin d'analyser ça, okay. Et c'est aberrant. C'est plus qu'aberrant. Comment les croyants peuvent croire à des énormités pareilles? Alors, le bon Dieu qui nous dit sans arrêt, reviens, qui n'est pas chez toi ailleurs que chez toi, dès qu'on revient, il nous envoie au champ de garde. Il dit, dans la tête de qui ça va rentrer? Eh bien, ça rentre dans la tête de l'homme pieux. Bon. Ça fait combien déjà? 4?
3.
Alors, une quatrième, qui consiste à dire, alors là, c'est encore énorme, c'est le prix à payer pour l'État d'Israël. Voilà, il fallait payer un prix. Alors, on a été gratifié de l'État d'Israël. Alors, je n'ai même pas besoin de critiquer ça. C'est aberrant. Il y a le juif errant et il y a le juif aberrant. Alors, ça faisait déjà 4. Il y en a 5. Hein, ça fait 4. 4 ou 5. 4. Très bien, attendez, c'est moi qui me rappelle. Et il y en a une qui m'échappe. Attendez, je rappelle. Premièrement, l'illusion religieuse. Bon. Deuxièmement, la punition de nos péchés. C'est ça? Non. Troisièmement, ah oui, et puis la cinquième, c'est Holocauste. Holocauste, ça veut dire sacrifice d'expiation. Ça veut dire nous sommes la victime expiatoire, rédemptrice des péchés du monde. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est une explication de type chrétien. Et tous les juifs qui en voient, et le terme, et le sens du terme, sont christianisants sans se rendre compte. C'est-à-dire, si en parlant de la Shoah, on dit Holocauste, on est déjà chrétien. Et vous avez remarqué comment l'Église s'est empressée d'annexer la Shoah, de le caraméliser. Et si j'ose dire. Et il y a une sixième thèse qui est d'apparence beaucoup plus forte, mais que je vais critiquer quand même très rapidement, qui est une thèse qu'on trouve, et chez les juifs, chez les juifs, et qui est très séduisante apparemment, avec une très forte cohérence. c'est de dire que c'est les dimensions de la Shoah qui posent le problème. Mais le fait de la Shoah est inscrit dans le principe du libre arbitre de la créature. C'est-à-dire que Dieu a vraiment voulu créer un être libre. Et si la liberté s'est serrure, tout est possible. Ça veut dire que quand Dieu a décidé de créer un homme autre que lui, il lui a donné la garantie de la liberté, on appelle le libre arbitre. Et donc Dieu a pris ce pari, a pris ce risque que le mal soit possible. Je dois vous dire que même l'étonnant de cette thèse avoue que quand même, une telle licence donnée au mal par un Dieu de vérité, ça reste mystérieux. Bien. C'est-à-dire on essaie de donner une explication. C'est-à-dire, s'il y a libre arbitre, alors, vu les conditions culturelles et de civilisation du temps, il peut y avoir des problèmes de ce genre, des catastrophes de ce genre. Mais je dois vous dire que nous sommes très polarisés sur le fait que Shoah, ça veut dire un événement qui a touché le peuple juif. Et c'est vrai centralement. Mais la Shoah n'a pas seulement touché le peuple juif, la Shoah a touché tous les peuples d'Europe. Pas de la même manière. Il y a un paroxysme en ce qui concerne les Juifs. Mais il faut découvrir que notre histoire est toujours liée à des événements universels. Et dans la catastrophe et dans le bien. Je vous donne les deux exemples. La Shoah d'un côté, l'État d'Israël de l'autre. Eh bien, de la même manière que la Shoah nous a pris au centre, mais a touché l'humanité entière, et met en question la civilisation occidentale. Parce que dans ce problème, il y a un problème triangulaire. Il y a les Allemands, les Juifs, Dieu. Et tout le monde s'arrange à ne pas parler des Allemands. Vous avez remarqué ça? Il y a deux coupables, ou Dieu ou les Juifs. Alors comme les Juifs ne sont pas coupables, Dieu est coupable, et les Allemands. Et pourquoi on ne parle pas des Allemands dans ce problème triangulaire? Parce que ça obligerait à mettre en question la civilisation d'où est sortie le nazisme. Et il y a le tabou, touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Parce que vous allez me dire que l'Occident, les valeurs occidentales, et surtout l'éducation chrétienne, touchez pas à ça. Alors on ne parlera que des Juifs ou de Dieu. Mais dans quel piège on nous enferme? Si les Juifs sont innocents, Dieu est coupable. Et si Dieu est innocent, les Juifs sont coupables. Alors comme il ne faut pas dire que les Juifs sont coupables, donc Dieu est coupable. Mais qui a fait ça? C'est pas les Allemands des fois, c'est-à-dire des Européens.
Qui a dit qu'il ne faut pas parler des Allemands?
C'est moi qui dis. Faites le bilan. Je vais pas trop vite, je vais dire, je fais le bilan des analyses qui nous sont données par les penseurs contemporains. On évite de mettre en question la civilisation d'où est sorti le nazisme. Est-ce que c'est clair? On essaie de faire cette mi-parenthèse de barbarie, mais que, surtout, fermez la parenthèse et réhabilitez-moi cette Allemagne, hein, etc., etc. Bon, on a quelqu'un s'est dit alors, au point qu'il y a des gens qui se payent le luxe de nier que ça a eu lieu. Mais c'est énorme, c'est inouï. Alors, je critique cette sixième thèse, maintenant, en disant d'abord quelle est sa force, elle est très cohérente. C'est très homogène à ce qu'enseigne la Torah. Le Créateur a voulu créer un être libre responsable. Pour que l'être créature soit responsable, il faut qu'il soit libre. Or, s'il est libre, tout peut arriver. Et donc, encore une fois, à certaines occurrences, lorsque la civilisation devient ce qu'elle a été au temps de l'Inquisition, au temps des nazis, d'abord, eh bien, on peut arriver à une barbarie. Donc, enfin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que nous avons des textes de la Torah qui nous expliquent ce lien entre la souveraineté divine et le libre arbitre de l'homme de la manière suivante. Et je vais envoyer les termes de Torah. Le libre arbitre de l'homme a un fondement, c'est le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu crée le monde, il le façonne pendant 6 jours, et quand l'histoire de l'homme commence, il entre en Shabbat, le Shabbat de Dieu. C'est clair. On dit ces mots-là, mais on ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière. Hein. Kibo, Shabbat, Mikom et Arto. Là-dessus, le Midrash intervient. Il dit Kibo, Shabbat, Mikom et Arto, car en ce jour, il a cessé d'agir de toute son œuvre. Le Midrash dit Mimelechet Olamo, Shabbat. Il a cessé d'agir, il est en Shabbat, de son monde. Vélo, ni Maaseem Shel Tzadikim ou Maaseem Shel Rechaim. Mais il n'est pas en Shabbat par rapport à l'histoire humaine, les actes des méchants et les actes des justes. Ça veut dire que le Shabbat, c'est la garantie des lois de la nature. Mais il intervient dans l'histoire humaine. Il y a des miracles au niveau des lois de la nature, c'est des miracles exceptionnels. Mais la providence de Dieu dans l'histoire humaine est permanente. C'est C'est clair. Ça veut dire que Dieu s'est laissé, si j'ose dire, porte de sorte, comment dire ça en français, s'est laissé, s'est aménagé la possibilité d'intervenir dans l'histoire s'il le juge. Bien que il y ait une telle semaine. Bien que il ait libre arbitre de l'homme, si Dieu juge qu'il faut qu'il intervienne, il intervient, et tout le récit biblique n'a pas à témoigner. Tout le récit biblique n'a pas à témoigner. Quand Dieu juge qu'il faut intervenir, il intervient. Quand est-ce qu'il juge qu'il faut intervenir en termes de racha, vous savez que la loi du Shabbat est suspendue s'il y a picoire de plus. Ça veut dire, si une vie humaine est en danger, la loi du Shabbat s'inverse. N'est-ce pas? Eh bien, alors ça voudrait dire que Dieu a jugé qu'il n'y avait pas picoire nefesh pour Israël, pour le peuple juif. Alors ça serait énorme, une thèse pareille. Voilà, ça s'entraîne. Ça veut dire que Dieu garantit le libre arbitre des nazis, même s'il n'y a picoire nefesh pour les juifs. Ça ne marche pas. Alors c'est clair. Bon. Alors on arrive à la thèse qui se base sur la Torah. Et ça touche un peu à notre analyse qu'on a eue ce soir. C'est qu'il y a une alliance de protection pour Israël dans l'exil pendant tout le temps de l'exil. Cette alliance de protection s'éclipse quand le temps d'exil est achevé et qu'on reste en exil. Et nous avons énormément de textes là-dessus. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire que la culpabilité de ce retard, c'est les Juifs. C'est leur maître qu'ils n'ont pas eu. Si j'ose dire, ou puisqu'ils ont été aussi carrés, ce n'est pas les Juifs qui ont été responsables de ce retard, c'est les rabbins. Et c'est un rabbin qui me parle. Fils de rabbin, petit fils de rabbin. Et c'est ça qui compte. Et nous avons des textes très durs pour ces rabbins-là. C'est eux qui rendront compte au jugement dernier. Alors, rappel problème. On s'est laissé prendre un piège. Et le piège, c'est le dernier. Et c'est le problème de la concomitance entre ces deux événements de fin d'exil. Et dont le modèle était à la sortie des livres. Quand le temps de la fin arrive, alors il y a deux possibilités. Ou on sort, on se fait prendre au piège. Alors ceux qui sont sortis, ils sont sortis. Ceux qui sont en train de piège, ils sont en prendre au piège. Il y a là le mystère du sort de l'individu qui dépasse tout le monde. Le corps à l'individuel, pourquoi un tel et pas un tel, ça, c'est pas entre nous-mêmes. Les kabbalistes enseignent ce qu'il faut à ce sujet. Ça nous dépasse infiniment, mais jusque-là, c'est clair. C'est-à-dire, nous étions prévenus par la Torah et par le Talmud. Si vous tardez quand le temps arrive, Dieu préserve ce qui vous arrivera. Et je vous dis que le texte. Hein? Parmi les textes. Et je dis, ce texte est mort. Eh bien, c'est dans Ktuvot. Et la phrase que je vais vous citer, c'est dans Ktuvot, en haut de la page 111a. Et je vais vous citer avec le commentaire de Rashi. La Gemara dit à ce sujet, il y a un serment. Il y a un serment. Si Israël accomplit ce serment, c'est bien. Sinon, à nous matir besachem qui se verrot vaïlot asad. Je rendrai votre chair efker qui rachit permise comme des biches et des gazelles déchets. Alors, c'est ce qui est arrivé. Il y a un serment qu'on a violé. Lequel? Eh bien, c'est Rabbi Elazar Ben-Peda, l'élève de Rabbi Yochanan, qui le dit juste après. Il dit que Dieu a juré, non, Rabbi Elazar Ben-Peda, va dire autre chose, mais c'est Rabbi Yochanan, le maître de Rabbi Elazar Ben-Peda, qui dit ce que je vais citer maintenant, qui a juré qu'il ne rentrerait dans la Jérusalem d'en haut que quand Israël rentrera dans la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tant qu'Israël est en exil, la Shrina a quitté le monde. Et alors, le monde entier nous en veut d'avoir un monde sans Shrina en disant que c'est la faute des Juifs. Ils appellent ça déicide dans la langue barbare. Okay? Mais ils disent la même chose que ce que les Juifs disent. Quand Israël est en exil, la Shrina est en exil. On ajoute pour le protéger. C'est vrai. Pour le protéger, c'est pendant le temps à partir d'exil. Okay? Mais quand on a dit Israël est en exil, la Shrina est en exil pour le protéger, on a mis l'accent sur le protéger, on oublie ce qu'on a dit, c'est un monde où la Shrina est en exil. Imaginez un monde où la Shrina est en exil de Shrina. C'est le monde de l'absence que nous vivons depuis 2000 ans. Il y a eu le monde de la prophétie, c'était le monde de la présence. Depuis que l'exil des Juifs d'Israël a commencé, c'est un monde vide de l'essentiel. Et de cela, le monde entier nous en veut. Alors voilà, il s'agit de tout à fait autre chose, auquel personne ne soupçonne parce qu'on n'a pas étudié ces textes. Parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah et qui croient qu'ils étudient la Torah, mais qu'ils étudient une partie de la Torah. Et tout ce qu'il faut étudier pour savoir en quoi il faut croire dans l'histoire d'Israël, ça, ils n'étudient pas. Et vous savez, je suis obligé d'être un peu carré, schématique, Ken. C'est très grave quand un rabbin, quelle que soit sa grandeur en tant que rabbin, dit la Torah dit que, alors c'est l'ignorant. Et c'est la plupart du temps, il parle d'une ignorance encyclopédique. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire un rabbin ignorant, Ken? Je veux dire de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple. Les juristes. Eh bien, les juristes ont une formation de base commune. Mais ensuite, il y a des spécialisations. Certains avocats sont plus spécialistes de divorce, d'autres de mariage, d'enfants, c'est les mêmes. Mais disons d'autres de succession, tout le monde. Après, c'est la même chose. Il y a une formation de base, et ensuite on spécialise. Certains s'occupent de cache-route, d'autres s'occupent d'enterrement, etc. D'autres s'occupent de la foi. Et ils apprennent ce qu'il faut. Eh bien, il y a des rabbins qui n'apprennent pas leur foi. Alors, quand ils croient, on se demande en quoi ils croient. Allez, c'est clair, okay. Et quand on est confronté aux événements sacrés, alors c'est ça qui se passe. Ça veut dire que, et je ne cite personne, je voudrais les citer tous, mais vous allez faire une idée, la Torah du que, quelle Torah, montre-moi, j'ai pensé que, et quand je pense, c'est la Torah qui pense, donc tu me suis. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, il faut réagir. Et il faut avoir le courage de dire, quelle que soit la grandeur respectable de la rabbin en question, monsieur, vous donnez votre avis, c'est pas la Torah qui parle. Voilà, moi je crois que le sujet n'est pas épuisé, mais ma voix risque de l'être, la dernière question aussi. La dernière question, l'avant-dernière d'abord. La dernière. Non, c'est monsieur d'abord, excusez-moi, plus. Okay. Pas plus fort.
Divergences qui sont apparemment contre la Torah, et si vous pouvez citer nommément des gens qui sont anonymes ou qui sont très anonymes, finalement ils seront récupérés dans un certain état ultérieur de l'histoire d'Israël.
Tu parles de anonymes?
Oui.
Bien.
Et ces gens, j'en suis persuadé.
Ouais.
Mais je commence à craindre après cette théorie. Je voudrais aussi que les Haridim qui habitent dans ce pays soient aussi récupérés. Mais... Je commence à craindre qu'ils ne soient pas.
Mais c'est mon souhait le plus cher. J'ai des membres de ma famille qui sont tombés dans cet enfer-là. La famille doit être là, j'ai rassurez-vous. Très loin. Eh bien, des cousins, des petits cousins, des petits descendants du même âge, grand-père, si vous voulez, grand-père, quand même, c'est la famille. Je le souhaite, mais il faut les aider à s'en sortir. Et pour ça, il faut cesser cette idolâtrie superstitieuse des Babes. Des Babes. Je m'appelle un des premiers mots hébreux modernes que j'ai appris de la foule, c'est qu'est-ce que c'est un épouvantail, d'arriver. Je vois un épouvantail, de loin ça fait peur. Tu t'approches, ça fait rire, alors tu pleures. C'est ça les Babes. De loin ça fait peur, mais on s'approche, ça fait rire. Donc, alors, c'est la vérité.
Ils sont moins justes que nous, c'est que j'aurais su, évidemment, hein, c'est un petit peu ce qui fait un discours exclusif. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une partie du peuple juif qui vaut la peine d'être dans le peuple juif et l'autre non. Et alors, les éléments de votre réponse et de la réponse d'un certain nombre de personnes également, ça revient sur le fond même, vous dites, ces gens-là, les gens de Nebrak, vous venez de retrouver à l'instant maintenant, ça va très loin même dans vos termes, vous employez des termes très très violents quelquefois. Ces gens-là ne sont pas, vous avez dit,
mais vous pouvez vous dire,
ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là n'ont pas le même statut, n'auront pas le même statut de juif.
Ça, ça
le
fait.
Non, mais c'est pas alors j'exagère.
C'est tout ça.
Vous avez tenu un discours, c'est clair, vous avez tenu un discours exclusif en tout cas, par rapport au judaïsme de Débrad, au judaïsme de Méacharim, qui est un judaïsme qui est à côté de la loi.
Vous dites ça.
Je vais finir après. Et alors moi, cet élément, cette manière d'utiliser, j'aime beaucoup ce que je pense que justement un des défis d'Israël qui n'existait pas en diaspora, c'était ça, justement un des grands défis de retour en Israël, c'est la capacité, de priver la capacité de vivre tout le monde ensemble. Oui. Les kibbutz qui mangent du porc, les gens qui veulent s'installer dans les territoires et les gens du rachat. Non, je conclure juste en disant qu'il y a eu également des réactions dans tous ces groupes-là qui ont été choquées. Il y a eu, juste après le discours du rachat, le rachat du député du rachat, qui a tout de suite essayé de modeler. Il y a eu également, j'ai oublié son nom, mais le président du kibbutz Arti, qui a dit, Arti, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a dit que on ne va pas réagir violemment, on ne peut pas réagir violemment parce que
oui, alors vous êtes désolé. Je veux d'abord corriger une chose. Moi, je n'ai pas été choqué du discours de Rachat. J'ai au contraire remercié d'avoir été franc et honnête. C'est pour ça que les choses sont graves. Je crois qu'effectivement, Rachat a donné un témoignage d'honnêteté. Qu'il dit ce qu'il pense, en quoi il croit. Seulement, j'essaie de vous faire entendre ce qu'il dit. Okay. Et je vous avertis, je suis là depuis le début de la séance. Ah, ben c'est dommage. Mais j'avais. Oui, non, mais c'est quand vous étiez pas là que je dis ce que je veux dire. Et je vous avertis que je n'avais que moi, tout en sachant très bien qu'il n'y a pas que moi qui est engagé là-dedans. D'ailleurs, j'ai déjà compromis, puis je m'avais entendu. Mais, non, je présente pas. Je veux dire. C'est un processus qui va être très long. Ce que j'ai dit, et j'ai dit à l'avance, je vais le dire de façon carrée. Mais je crois que j'ai été, par rapport à Rachat, extrêmement respectueux, de la même manière que ça peut m'arriver d'être respectueux quand je cite un cardinal. Vous allez me dire, mais cette comparaison est épouvantable, mais c'est pas moi qui l'a fait. Et je vais dire de quoi il s'agit. Rachat a dit, nous sommes galutes. L'État juif, c'est une erreur.